1, 2, 1, 2, ça marche.
Ça marche, Thomas,
ça marche très bien.
Super. Donc bonjour, merci d'avoir accepté en tout cas ce petit reportage. Vous êtes donc le producteur de Nos Ombres d'Algérie. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur votre métier et sur même vous présenter ?
Eh bien, moi je m'appelle Laurent Segal et effectivement j'ai une société de production de films qui s'appelle Canary Film, avec un K. Et moi, ma petite particularité, c'est qu'à la base, je suis réalisateur et j'ai créé ma société, donc ça fait bientôt 25 ans, pour au départ monter mes projets, en fait, qui étaient de tout ordre, fiction, documentaire, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que c'était un outil d'indépendance, c'était important. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, les deux, faire des films, faire la prod. Les plusieurs casquettes, c'est un métier très collectif et j'ai toujours aimé diriger des équipes, trouver des équipes, me confronter au fait de chercher des sous et en même temps essayer de raconter des histoires. Donc depuis le début, en fait, en tant que réalisateur, je faisais un travail de producteur. Donc j'avais cette double casquette et qui n'était pas gênante pour moi. Il y en a certains qui supportent pas de devoir aller chercher des sous, de convaincre des gens pour faire des projets. Moi, c'est toujours fait partie de ma motivation. Et puis au contraire, même à un moment donné, c'est ce que j'ai préféré en fait, de favoriser l'outil pour rester un peu indépendant et un peu autonome, plutôt que d'être livré en tant que réalisateur à d'autres producteurs, d'autres pratiques. Forcément, en ayant fait ça, j'avais une notion des budgets, de comment on fait les films. Et j'étais pas facile, on va dire, à driver, dans le sens où, moi j'essayais de, par exemple, mettre un maximum d'argent dans les films et pas à côté. Donc je me suis dit, si tu veux continuer comme ça, il vaut mieux le faire avec ta boîte qu'en allant travailler chez les autres, ça va être problématique et compliqué, quoi. Donc voilà, moi la première raison c'était ça, c'est un outil d'indépendance, de liberté. Et du coup, j'ai créé, en ayant créé cette structure, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai évolué plus vers la production, puisqu'à un moment donné, c'est pareil, je me suis dit, maintenant tu as créé une boîte, si tu fais que tes films à toi, ça ne va pas aller très loin. Donc voilà, j'ai décidé de travailler avec d'autres réalisateurs. Alors faut être clair avec son ego, faut avoir suffisamment avancé pour se dire de ce côté-là, je suis clair avec moi-même, je développe plus cette faculté, tant pis, j'aurai pas mon nom au sommet de l'affiche, mais rester aussi, moi ce qui m'intéresse toujours, enfin je me définis comme ça, comme un artisan, moi je suis pas un industriel de l'audiovisuel, donc j'aime façonner des objets, donc il fallait aussi que j'aie un lien artistique avec les projets. Donc sans non plus venir embêter les réalisateurs, les spolier de leur travail. Voilà, c'est trouver la bonne limite pour qu'on travaille tous ensemble en bonne intelligence, que moi j'y trouve mon compte aussi artistiquement. Puis ça fait petit à petit. Et effectivement, le domaine qu'on a choisi d'explorer majoritairement, c'est le documentaire. Donc depuis une quinzaine d'années maintenant, en fait, je fais plus que des documentaires. J'ai complètement arrêté le travail de réalisation, mais je reste co-auteur de beaucoup de films qui sortent de Canary. Parce qu'effectivement, moi, du coup, je suis très investi en amont dans l'écriture du projet. Parfois, c'est même moi qui ai l'idée de certains films, ou en tout cas, des gens viennent m'amener une idée, puis je mets en connexion, ou je vais chercher un réalisateur en disant, tel que je connais, ça me paraît un sujet pour lui. Donc voilà, je fais tout ce travail-là en amont, et puis je suis très impliqué derrière dans l'écriture, parce que moi je le précise souvent, un documentaire ça s'écrit en fait, surtout moi en tant que producteur. Effectivement après il faut convaincre des partenaires pour financer les films. Le travail de producteur c'est pas que une fois qu'on m'a présenté un projet que je me dis il est cohérent avec ma ligne éditoriale, avec j'apprécie le réalisateur ou son travail ou sa personnalité, il m'intéresse dans le cadre de ma structure, maintenant pour le faire il faut que j'aille chercher des sous, quoi. Et du coup pour aller chercher des sous il faut écrire un dossier. Un gros dossier artistique, contrairement à ce qu'on peut croire, justement, le documentaire ça s'écrit, c'est pas juste on va tourner comme ça dans le réel, on prend sa caméra. Alors ça peut être aussi une manière de faire, mais si on veut des partenariats, ça c'est pas possible. Donc, et puis écrire un dossier, c'est aussi poser des problématiques artistiques, c'est se rendre compte justement déjà avec le réalisateur du niveau de collaboration qu'on peut avoir, comment on peut faire évoluer ses idées, ce qu'il écoute, ce que moi j'essaye d'obtenir, de ce que je lui demande. Donc voilà, c'est l'écriture, c'est pas juste aussi faire un dossier pour aller chercher des sous, c'est aussi une manière de se poser concrètement les questions du futur film et de voir comment on va y répondre. Un exemple concret dans Nos Ombres d'Algérie, effectivement, l'écriture, ça commence déjà à se dire, il y aura combien de dessinateurs présents dans le film, quel dessinateur on va prendre, pourquoi ? Parce qu'ils représentent telle sensibilité, telle manière de travailler, ils vont nous permettre d'aborder telle période, tel moment de cette histoire. de montrer telle technique de dessin, de travail. Donc voilà, dès le début, ça c'est ce que j'appelle de l'écriture. C'est-à-dire que, et on ne dit pas, bah, tiens, il y aura peut-être, va y avoir des dessinateurs de BD qui ont travaillé sur l'Algérie, point. C'est lesquels, pourquoi ceux-là? Il y en a 6, il y en a 8, il y en a 5, il y a, voilà, il y a des Algériens, il y a des pieds noirs, des harkis, il y a une femme. Voilà, c'est l'écriture déjà, elle commence comme ça. Et voilà, moi c'est tout ce travail-là évidemment que je préfère en termes artistiques. Puis après, moi je reviens beaucoup au moment, je suis à nouveau pas mal présent au moment du montage. Parce que ben voilà, souvent moi c'est des aventures qui durent au minimum un an et demi, voire beaucoup plus des fois. Moi j'ai produit un film qui a duré 8 ans, donc c'est le documentaire pour ça, c'est génial. Et voilà, dans la majorité des cas c'est quand même pas ça, on reste sur des durées aux alentours d'un an et demi, 2 ans. Et moi effectivement à un moment donné, alors que le réalisateur avec le monteur ils sont englués dans leur travail, moi je peux amener un regard justement frais en salle de montage par rapport justement à des questions qui s'étaient posées au moment de cette écriture. Et voilà, j'ai un peu lâché la bride au moment du tournage, mais par contre je reviens assez présent au moment où on monte le film et où on est sur l'objet définitif et où des fois il faut faire des coupes dans la durée pour pouvoir être diffusé dans la télévision qui nous l'a commandé, où je trouve que des choses ne sont pas claires, ou voilà, des problèmes qui sont apparus en cours de route, qu'on n'avait pas prévus au moment de l'écriture, comment on les règle à ce moment-là. Donc voilà, moi c'est les deux moments artistiquement où je suis présent, l'écriture et le montage. Et puis après, bah, effectivement, faut trouver des sous. Et le système français a ceci de particulier qu'en fait, il y a plein d'endroits où on peut trouver de l'argent pour faire des films en France. Ça, c'est vraiment chouette. Et souvent, c'est les mêmes endroits que pour faire des courts-métrages, des longs-métrages ou des documentaires. Les guichets sont différents, mais en gros, c'est la même mécanique. Par contre, la particularité, c'est qu'on est obligé de trouver un diffuseur. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment, à un moment donné, le cœur de mon métier des producteurs, c'est justement de porter des projets auprès des diffuseurs, des chaînes de télévision. Voire de certaines plateformes internet qui sont reconnues comme telles. Et il faut avoir obligatoirement embarqué dans l'aventure d'un film un diffuseur en amont. C'est-à-dire qu'avoir signé ce qu'on appelle une convention de coproduction ou de préachat, ça ne peut pas arriver après. Et sans ça, on ne peut pas être éligible à toutes les aides qu'il y a auprès du ministère de la Culture, des régions, des organismes qui financent le cinéma. Donc à un moment donné, il y a un goulot d'étranglement pour faire exister un film, si on veut le financer, on est obligé de trouver un diffuseur. Alors après, ça peut être un diffuseur, une petite télévision locale. Quand je dis petite, attention, il y a des grosses antennes, mais je veux dire, c'est pas péjoratif du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'on pense, quand on dit diffuseur, on va tous penser à Arte, France 2, France Télévisions, Canal+. Il y a des chaînes de télévision comme TV8 Montblanc, Bip TV Issoudun. J'essaie de chercher là, vers Evo, Bip TV, pas très, mais Évreux, est-ce que je connais il y avait une télé, je crois qu'il y avait une télé Télé Normandie qui existait, je suis plus sûr qu'elle existe toujours. Voilà, mais voilà, c'est ça. Donc c'est aussi des diffuseurs, eux ils vont pas mettre d'argent généralement, mais le fait qu'ils disent OK, le film nous intéresse et on le diffusera sur nos antennes, moi me permet d'aller chercher des financements.
Est-ce que un diffuseur plus physique justement comme le FIFE est considéré comme tel?
Non. Non, non, il faut que ce soit un diffuseur, effectivement, qui soit, alors c'est les particularités françaises, enregistré auprès du CNC. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma, qui est un des très gros financeurs du cinéma, de la télévision en France. Souvent, ils mettent plus d'argent que la télévision. Moi, quand je fais un film comme Nos Ombres d'Algérie, le diffuseur va mettre en cash réel entre 10, 15 et 20 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Hein. Le CNC va en mettre 25 ou 30 000. Donc, sauf que le diffuseur sait très bien qu'avec son argent à lui, moi, je vais aller chercher les 30 000 du CNC, et puis d'autres organismes. Donc, quelque part, ça donne un pouvoir. Ils savent très bien que s'ils disent oui, on va faire le film. Voilà. Même si eux ne le financent pas complètement. C'est un peu la particularité du système français. Mais du coup, voilà, il faut vraiment des diffuseurs qui sont référencés. Ce que je vous disais, alors, c'est les télévisions. Mais maintenant, il y a aussi des diffuseurs sur Internet qui peuvent être acceptés au CNC. Voilà. Mais il faut que ce soit ce type de diffuseur. Effectivement, un festival n'est pas... Voilà, ou une télé occasionnelle montée à l'occasion d'un événement ou d'un festival, aussi intéressante soit-elle, va pas générer. Il faut aussi des années. Il faut que aussi ces diffuseurs soient français. C'est-à-dire que si moi je trouve des diffuseurs à l'étranger, ça compte pas dans un premier temps dans cette mécanique-là. Après, c'est important de trouver aussi des diffuseurs à l'étranger qui peuvent mettre un peu d'argent, mais ça n'empêchera pas de trouver un diffuseur français, sinon on n'a pas accès à ces financements. Voilà. Mais un film comme Nos ombres d'Algérie, voilà, pour être très concret, c'est des budgets de l'ordre de 120 000, entre 120 et 150 000 euros. Donc moi, évidemment, ce n'est pas de l'argent que je sors de ma poche parce que j'ai fait fortune ou que je n'ai rien d'autre à faire de mes sous. Donc c'est des financements qu'on cherche, qu'on trouve. Et le système français est quand même assez génial pour ça et permet à toute une industrie d'exister. Entre le cinéma, la télévision, aussi dans une autre manière, les compagnies de théâtre, etc., qui font que partout sur le territoire, bah, des festivals comme celui-là peuvent aussi exister. Et, les réseaux de cinéma indépendants, les médiathèques, les mois du documentaire. Enfin, il y a énormément de manifestations, parce que moi, il y a le côté production, mais évidemment, tous ces organismes, ils ont un côté aussi, ils soutiennent évidemment la diffusion, la distribution. Et ça crée un système qui est très cohérent. Mais effectivement, il faut en connaître un peu les clés, et c'est là où il y a un travail à faire en production réelle, et qui des fois est ingrat. Moi, des fois, je développe des projets pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Je ne trouve pas de diffuseur et malheureusement, on ne fait pas le film. Parce que sinon, ça veut dire que c'est moi qui vais financer en fonds propres. Alors, j'ai fait une fois un pari complètement dingue comme ça, ou sur un très gros film que j'ai produit en plus, un des plus gros. Je n'ai pas eu de diffuseur, on s'obstinait quand même. Bon, au bout de 2 ans, j'avais 300 000 euros de dette. Je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Mais voilà, être producteur, c'est aussi prendre des risques. Enfin, il faut trouver le bon équilibre entre, si on fait que les choses qu'on nous finance, des fois, il faut être capable de sortir en disant, j'ai raison, tant pis, je fais le film. Et je pense qu'ici, il y a des films qui peuvent être soit autoproduits, ou en tout cas produits de manière un peu transversale. Et en l'occurrence, moi, le film dont je vous parle, j'ai récupéré cet argent après, parce que, effectivement, ça a été un gros succès. Canal+ nous l'a acheté après coup. On a refait une version plus courte, parce que c'était un long métrage qu'on a sorti en salle. On a refait une version pour la télévision, où là, j'ai pu monter une production. Et puis, j'ai fait beaucoup de ventes de DVD, beaucoup de festivals, beaucoup de projections publiques. Et du coup, sur 10 ans, on a rattrapé. Donc, voilà, c'est aussi ça le métier de producteur, des fois. C'est être capable de prendre un risque. Alors,
Justement, c'était une autre question sur le... Parce que...
Entre autres, oui, alors il y a aussi que pour avoir ces fameux diffuseurs, il y a deux cheminements. Il y a un moment donné où quand on fait un long métrage, on doit aller vers les financements cinéma. Et donc il faut trouver des réseaux de cinéma qui vont diffuser le film après coup. Là, c'est plus, il y a des télés aussi, mais ça devient un peu autre chose. Et alors que quand on fait ce qu'on appelle le format majoritaire, en fait, en télévision, c'est le 52 minutes. C'est-à-dire c'est des films qui font entre 50 minutes et 1 heure. Et là, il y a un fléchage aussi particulier. Donc nous, effectivement, ces films. Et puis, ce matin, on a fait une très, très chouette projection scolaire ici dans le cadre du Festival d'Evreux. Et typiquement, moi, je crois beaucoup aussi à la juste durée des films. Des fois, on fait durer les films un peu longtemps. Si on veut faire un débat derrière, si on veut s'adresser à un public, des fois, effectivement, scolaire ou de fans de festivals documentaires ou de choses comme ça, c'est bien de rester dans un... Je trouve que le format autour d'une heure, il est super bien. Voilà, entre 50 minutes et une heure, c'est un très chouette format. Et moi, je suis plutôt sur ce... Je produis plus de films, majoritairement, je produis plus de 52 minutes ou de films de 60 minutes que de films de 90 minutes ou de 2 heures, quoi. Voilà. Mais ça, une fois de plus, c'est chaque producteur, chaque... Moi, je pense que... Enfin, après, ça, c'est ma conception. C'est moi, justement, comme je vous disais, je revendique d'être resté un artisan. C'est-à-dire que j'essaie de faire les films, les objets, les mieux dimensionnés à chaque fois. Mon idée, c'est pas de... On peut concevoir ce métier aussi en termes de presque d'industrie, en disant, tiens, je suis l'exécutant d'une chaîne, je fais les films qu'on me demande de faire, je fais toute une série de films qui sont un peu sur le même thème pour une chaîne, et je suis plus l'exécutant de la chaîne que la personne qui fabrique son objet, qui derrière va trouver du public, va l'exploiter pendant des années, voilà. Moi, j'ai plus choisi cette deuxième voie qui est de reposer des questions de base à chaque film, en fait. Donc, chaque film peut être différent, peut avoir une durée différente, peut s'adresser à des publics différents, peut s'adresser à des télévisions, à des partenaires différents. Même si, au milieu de tout ça, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs films sur la bande dessinée, par exemple. C'est un univers qu'on connaît bien. Et on a fait notamment, par exemple, autour de cet univers, on a fait 6 films. Parce que Nos ombres d'Algérie, donc, c'est effectivement un film qui raconte, qui réunit 6 auteurs, 6 dessinateurs et scénaristes qui ont travaillé sur le sujet de la guerre d'Algérie et qui ont tous un lien en particulier personnel ou familial avec ces événements. Et donc, ils se sont posés des questions personnelles sur comment les traduire dans leur œuvre. Voilà. Donc, l'idée de base, c'était ça, c'était de montrer au travail et de donner la parole et de, radiographier cette période très compliquée de notre histoire par le prisme, par le truchement du travail des auteurs de bandes dessinées. Voilà.
Et pourquoi spécifiquement d'ailleurs ce choix d'expression de la bande dessinée et d'ailleurs, vous voyez, ce sont 6 films différents, c'est vraiment un parti pris, plus que plein d'autres façons de faire, ouais. Mais c'est hyper intéressant, mais juste pourquoi ?
Alors déjà, je précise à la base, c'est pas parce que je suis fan de BD, moi je le spécifie à chaque fois, j'essaie toujours de détendre un peu tout le monde en disant « j'ai fait pas ces films parce que je suis fan de BD ou parce que mes réalisateurs le sont ». Mais moi c'est pas le cas à la base. C'est ça qui est génial dans le documentaire en fait, c'est qu'en fonction des projets qu'on vous amène, si vous êtes curieux, tout d'un coup vous allez pénétrer dans des univers que j'aurais pas soupçonné. Moi je me suis retrouvé à faire un film sur le vainqueur du Vendée Globe alors que je viens du lac d'Annecy et j'ai pas grand chose de marin. Quand vous faites un film sur la restauration d'une cathédrale, je suis pas restaurateur d'art, mais c'est ça qui est génial. Et effectivement, le hasard en fait, c'est ça qui est top en documentaire. Un jour, un réalisateur est venu me voir et m'a dit « Dis donc, tu crois pas que faire un film sur la création d'une bande dessinée, ça pourrait être intéressant ?» Et c'est au moment, comme en ce moment, où le cinéma pille un peu sans vergogne tout l'univers BD en faisant des adaptations en vrac. C'est la grande mode depuis des années, jusqu'au Marvel qui ont créé un univers autour de ça. Nous, on avait un peu eu le raisonnement inverse en se disant « Tiens, si on mettait le cinéma et le documentaire au service de la BD pour montrer aux gens comment ça se fait une BD, en fait. Voilà. » Et si on tournait nos caméras vers la création, vers un auteur, vers des auteurs en train de travailler qui nous expliquent l'art BD, plutôt que de prendre leurs univers et de les adapter. En fait. L'idée, moi, me paraissait bonne, en fait. Et il se trouve qu'en l'occurrence, la bande dessinée dont on parlait, c'est une BD assez connue, ce qui m'a permis de prendre tous ces risques. C'est une BD qui s'appelle Largo Winch, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, pour les auditeurs, c'est effectivement quand même plus typé, plus ma génération, années 90, 2000, mais c'est toujours une BD qui tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui a beaucoup de fans. Et du coup, on a eu l'occasion de suivre tout le travail de création autour d'un album. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a suivi les auteurs et on a fait un film qui est un peu devenu une petite référence, qui raconte, depuis la première ligne d'écriture du scénario jusqu'à l'impression de l'album, tout le processus créatif. Voilà. Et du coup, moi, une fois embarqué là-dedans, ça aurait pu s'arrêter là. Mais effectivement, comme le film a été compliqué à monter, qu'on a fait beaucoup de festivals, que le travail a été reconnu, que moi, du coup, ça m'a aussi fait connaître auprès de futurs porteurs de projets comme quelqu'un qui s'était coltiné le travail avec les éditeurs, connaissait le monde de la BD, connaissait le monde, etc. Des gens sont venus me proposer d'autres projets. Et comme ça, c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, j'ai 6 projets en 15 ans qui se sont concrétisés autour de ce travail. Et à chaque fois, avec des très, très grands auteurs, on a après eu la chance que Jean-Claude Mézières nous ouvre son atelier. Pareil, ça ne vous dira peut-être rien, mais Jean-Claude Mézières, c'est le papa de Valérian, quand même, que Besson a adapté et qui, dit-on, a inspiré George Lucas pour La Guerre des Étoiles. C'est c'est un des créateurs du space opéra à la française, la science-fiction, enfin toute cette génération des années 60-70 extraordinaire. Donc on a fait un film avec Jean-Claude Mézières, on a fait un film avec François Bouc, et puis on a fait ces travaux autour de l'histoire. Là, j'ai trouvé que c'était une autre porte d'entrée par rapport à la bande dessinée, de se repositionner sur des périodes de l'histoire avec des auteurs qui avaient travaillé dessus. Donc on a fait un film précédemment sur la guerre de 14-18, avec des auteurs, alors là, très international, où il y avait des auteurs anglo-saxons, un belge, des Français aussi, Jacques Tardy, évidemment, et puis ce film sur la guerre d'Algérie. Mais ça se fait, après moi ça se fait, ce que j'aime bien c'est l'idée n'était pas de se dire tiens tous les ans il faut que je sorte mon film sur la BD ou non, c'est après on est tributaire des rencontres, des fois je suis resté 3 ans sans projet autour de la BD, puis des fois on a fait 2 projets quasiment en même temps, donc je suis dépendant des envies des autres, des idées des autres, des opportunités aussi, est-ce que c'est possible de faire ce film là, est-ce que l'auteur va être ok pour le faire, enfin c'est tous des gens qui n'ont pas besoin de nous, ils ne vont pas faire ça, c'est intrusif le fait de filmer des gens au travail, de créer une relation de confiance comme ça sur le long terme. C'est souvent des films qui durent, en tout cas dans le tournage s'étale sur 1 an facilement. Donc c'est pas on arrive, on prend 2 jours et puis salut, au revoir. Donc effectivement, les conditions ne sont pas toujours réunies. Et c'est toujours un petit moment miraculeux quand tout s'emboîte bien et qu'au final, on se dit, là, il y a un nouveau projet, il y a un truc qu'on va mener à bien. Donc au final, ça fait 6 films sur 15 ans, c'est pas non plus... Mais c'est une vraie, effectivement, c'est une vraie signature de notre travail et de ma société en documentaire sur la bande dessinée. Ouais.
Ok, d'accord.
Voilà.
Dernière question. Du coup, vous nous avez un peu expliqué du coup l'univers du cinéma. Ouais. On avait juste une dernière question, c'était un peu. Non, parce que vous avez répondu déjà.
C'était laquelle alors? C'était
à propos d'où vient l'idée de ce film. Mais du coup, vous nous avez expliqué.
Ouais, alors. Bah, l'idée du film, après, celui-là précisément, quand même, on peut en parler, puis c'est celui qui est... Oui, exactement. C'est voilà, bah, justement pour ça, parce que c'est une période très complexe de l'histoire qui est pas toujours, qui est toujours pas réglée. Il y a encore des traces tangibles. La mémoire a vraiment du mal à se déployer. On constate, moi, quand je fais des projections comme ça, on voit bien qu'il y a un silence autour de ces événements, que c'est pas facile la communication, même des fois auprès du public scolaire, on pose la question, mais vous, la guerre d'Algérie, ça vous dit quelque chose? Vous en avez parlé au sein de la cellule familiale ou quoi? Et non, des fois, on a des jeunes qui disent, bah oui, moi, ça m'intéresse, j'ai posé des questions, mais je sens que c'est fermé, voilà. Donc, on sent bien qu'il y a un tabou quand même autour de cette période de l'histoire qui a été très, très compliquée, qui n'est pas réglée 60 ans après. Et du coup, alors c'est là où il faut aussi être malin vis-à-vis notamment des chaînes de télévision. Bah nous, l'année 2022 nous offrait une opportunité parce que cette année, c'était le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Au printemps, les accords d'Évian, donc qui symbolisent, on va dire, la fin de la guerre d'Algérie en mars 1962. Bah, cette année, donc, c'était le 60e anniversaire. Donc, ben voilà, quand on prend quelques temps d'avance, on se dit, tiens, voilà, dans 2 ans, ça va être mis en avant. Donc, si on arrive avec une approche un peu différente des autres par le prisme de la BD, peut-être que ça peut intéresser. Ça va peut-être intéresser des diffuseurs parce qu'on sait très bien que les diffuseurs, effectivement, ils vont cocher ça. Ils vont se dire, en 2022, on va parler de la guerre d'Algérie. Ça, on le sait. Après, comment, combien de films, etc. Est-ce qu'on aura une autre chance? On n'en sait rien. Mais on sait que s'il y a un moment où il faut en parler, c'est là. Genre le même projet un an avant ou un an après, on va nous dire bah désolé, c'est trop tard ou c'est trop tôt quoi. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est des fois regrettable. Le film, je pense que justement, nous, on va l'exploiter longtemps. Il n'est pas fait pour parler en 2022, puis en 2023, ça sera réglé. Ben non, on en parlera aussi. Donc moi, c'est bien parce qu'après, du coup, les films, ils peuvent avoir une longue durée de vie. Mais à un moment donné, vis-à-vis de pour intéresser une chaîne et des partenaires, pas qu'une chaîne aussi, des partenaires. Bah, faut un peu devancer l'appel, quoi. Voilà. Et donc, faut un peu, comme ça, des années en avance, dire tiens, parce qu'un film, ça se monte pas en 15 jours, donc vous l'avez compris. Donc, effectivement, moi, c'est un projet que j'ai commencé à lancer en 2019-2020, avec cette idée en tête, quoi. Et il se trouve que c'est le réalisateur avec qui j'avais fait le projet sur la guerre de 14-18, qui déjà le portait à ce moment-là. Il m'en avait parlé quand on s'est rencontrés et qu'on avait fait connaissance sur ce précédent projet. Il m'avait dit mais il y aurait aussi un truc très intéressant à faire justement par rapport au fait que 14-18 il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de témoins, donc là les dessinateurs il y a un travail de recherche, ils travaillent dans le vide on va dire, alors que la mémoire de la guerre d'Algérie existe encore, on peut encore se poser ces questions, d'où un choix crucial et qui fait la différence entre les deux films, justement nous c'était ça, d'avoir choisi des dessinateurs qui ont un lien personnel et familial avec cette histoire, ce qu'on ne peut pas avoir sur, qu'on n'a plus sur 14-18, un lien direct avec ces événements. Et du coup, voilà, les objets, même si c'est sous le même parapluie, sous la même ombrelle, ok, c'est la bande dessinée qui revisite l'histoire, il était question de faire des films très différents. Moi, je ne voulais pas être dans une idée d'une duplication, d'une collection comme ça, en disant, voilà. Mais effectivement, bah, au moment où on s'est rencontrés, où on a lancé le projet sur 14-18, je lui ai dit, bon, voilà, on va déjà se faire ce premier film, puis on verra bien si ça se passe bien. Et effectivement, on s'est rendu compte, justement, après coup, c'est un film qui a énormément tourné. Alors là, pareil, on l'avait fait au moment du centenaire, donc 2018. Et on a fait, je crois qu'on en est à plus de 200 projections publiques du film. Pareil, en établissement scolaire, dans des médiathèques, dans des cinémas indépendants, pendant le mois du doc. Moi, j'ai sorti une édition DVD à 3000 exemplaires qui est quasiment épuisée aujourd'hui. Le film a vraiment très bien marché. Et donc, voilà, en rencontrant aussi, pareil, en faisant des projections, on s'est dit, bah oui, ça nous a conforté dans cette idée qu'il y avait un intérêt du public à notre démarche, quoi. Et nous dire, bah oui, c'est génial d'aborder des sujets comme ça compliqués par la BD, par le travail des auteurs, parce que ça, bah voilà, le prisme artistique permet d'aborder des choses différemment, de ne pas être forcément dans la polémique, de voir comment ces auteurs-là, ils réfléchissent et investissent le domaine, et puis voir les différentes techniques. C'est fascinant de voir des auteurs dessiner, réfléchir, travailler, comment on rend une histoire en bande dessinée, comment on raconte une histoire en bande dessinée, les différences qu'il y a entre la BD, la peinture, les autres arts. Voilà, évidemment, tout ça s'exprime autour de ça. Dans nos films, on voit les dessinateurs travailler. C'est, C'est, on les voit au travail, on les voit faire des donc ça, des fois, on s'écarte complètement du prisme historique pour être sur un prisme uniquement artistique. Mais les deux se rejoignent souvent. Voilà, quand ils vont se mettre à parler d'ombre, de luminosité, de comment voilà, Maëlle, dans notre film sur 14-8, qui dit bah, on a toujours l'image d'un soldat du poilu, c'est le vieux, etc. Mais non, à cette époque-là, les gamins, c'était des gamins de 16 ans, certaines fois, qui étaient dans les tranchées. Et comment je dessine des visages de jeunes vieux, en fait, quoi, fatigués, avec la moustache, la barbe. Donc c'est voilà, les questions à un moment donné qui se posent artistiquement permettent d'aller sur des pistes historiques. Et on s'est rendu compte vraiment sur ce film-là qu'il y avait un vrai intérêt du public, quoi. Alors voilà, pas toujours dans certains festivals d'histoire, on sent bien que la BD, donc bon, dans ces festivals-là, dans ces endroits-là, moins de succès qu'à d'autres endroits, mais tant mieux, c'est pas voilà. C'est... Et du coup, ben, on s'est dit, ben, oui, moi tout d'un coup, en vivant cette expérience d'exploitation vraiment réussie. Bah forcément, on s'est dit, bah oui, tiens, le projet sur l'Algérie, sur une mémoire encore plus compliquée, plus proche, dont on est encore presque les témoins de l'évolution aujourd'hui, ça peut devenir un outil pour des jeunes, pour amener un lien, pour amener, voilà, pour amener les gens à en parler déjà. Et j'ose croire que c'est ce qui se passe avec ce film, qui prend aussi une chouette tournure aussi. Bah, notre sélection ici... au FIFA le montre, voilà, nous dans le mois du Doc, là on est en novembre, on a eu une trentaine de projections du film partout en France, d'autres depuis qu'il est né, pareil, j'ai fait aussi une grosse édition vidéo qui se passe, de DVD qui se passe bien, donc là ça a l'air de répondre à cette demande, et c'est pour ça que nous on a voulu, et ça c'est un choix vraiment que le réalisateur portait, auquel j'ai totalement souscrit, de faire un film dépassionné, quoi. L'idée c'était de faire un film... ouvertement apaisant, pas d'aller chercher des choses qui grattent, voilà, de laisser les... Et forcément, ces auteurs, ils ont autre chose à dire qu'à leur révolte, ils l'expriment, ou leur questionnement, ils l'expriment de manière, voilà, un peu plus rentrée, ou plus personnelle, ou de manière plus émotive. Donc voilà, c'était une belle manière d'aller à la rencontre de cette histoire. Et nous, dès le début, on voulait que les dessinateurs qui témoignent dans le film nous permettent d'aborder, de laisser une place à toutes les mémoires en fait de ce conflit, c'est-à-dire de parler des harkis, de parler des appelés du contingent, de parler des pieds noirs, de parler de laisser de la parole aussi à des Algériens. Voilà. Donc ça c'était vraiment le postulat de départ, de dire on laisse personne en chemin et le film a une vocation comme ça à être paisible et apaisant et pas de raviver les blessures ou de mettre du sel sur les plaies, quoi. Voilà. Et au départ, on avait prévu aussi même d'aller en Algérie. Puis bah, malheureusement, on a fait le film pendant la période du Covid. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça aurait peut-être été confus et ça nous a obligés à garder un point de vue depuis la France. Et je pense que ça rend le postulat de départ du film plus clair. Mais ça pourrait être l'objet d'un prochain projet. D'aller à la rencontre de dessinateurs algériens ou de faire une rencontre en Algérie, de ramener peut-être des dessinateurs sur le lieu de... Ce serait une autre manière d'émotion. Peut-être que finalement, ça donnera naissance à un deuxième film, qui sait.
Une suite.
Voilà, pourquoi pas. Voilà. Peut-être un petit scoop, on verra. Voilà. C'est pas...
On marquera peut-être dans le...
C'est pas... Voilà, à voir pour plus tard.
D'accord. Et merci beaucoup.
Merci à vous. J'espère que ça vous va.